Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé, Sandrine Mercier.
Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Il y a des chiffres qui alarment. Écoutez celui-là, 41 millions d'enfants de moins de 5 ans seraient en surpoids dans le monde. C'est un chiffre donné par l'OMS, l'Office mondial pour la santé. Et la majorité d'entre eux vivent où ça? Dans les pays du Sud. En France, une étude de la Direction des statistiques indique qu'en maternelle, les obèses sont 4 fois plus nombreux chez les enfants d'ouvriers que chez ceux des cadres. Il existe donc un lien entre surpoids et inégalité sociale. Les enfants nés dans les milieux défavorisés sont touchés de plein fouet. Alors à partir de quand peut-on dire qu'on est en surpoids? Quels sont les impacts sur la santé? Et comment lutter contre cette maladie de pauvre? Est-ce qu'on peut parler d'abord sans les stigmatiser de maladie de pauvre? Et surtout, quels sont les programmes efficaces qui peuvent être déployés? On en parle aujourd'hui avec le docteur Olive Verrier-Mine. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes endocrinologue diabétologue au centre hospitalier de Valenciennes dans le nord de la France et vous êtes en duplex de France Bleu Nord. Merci à toutes les équipes de vous accueillir. Alors vous êtes trésorière également de l'association Fédérons les villes pour la santé avec un programme qui est mis en place qui s'appelle Vivons en forme, le VIF, pour justement essayer d'aider des programmes efficaces qui agissent sur les milieux défavorisés en termes de nutrition. Pourquoi vous avez cet engagement, docteur?
Parce que la région Nord-Pas-de-Calais est devenue la région Hauts-de-France et la région de France où il y a le plus d'obésité et que je ne pouvais pas rester simplement médecin hospitalière, il fallait qu'il y ait un volet prévention. Et ce programme est l'un des seuls qui soit efficace.
Vous allez nous raconter effectivement tous les points que vous avez mis en place et comment vous avez noté de résultats positifs. Donc on peut lutter contre cette maladie, contre l'obésité. Vous allez nous raconter ça tout au long de l'émission. On attend vos questions au 33 1 84 22 75 75, vos témoignages et sur Facebook toujours la page de Priorité Santé. En fin d'émission, nous retrouverons la chronique nutrition de Stéphane Besançon. Elle tombe à pic aujourd'hui. N'attendez pas en tout cas la fin de l'émission pour vous exprimer. Dans la deuxième partie de l'émission aussi, puisqu'on sait que la moitié des enfants obèses sont dans les pays du Sud, comment ça se passe au Bénin? Nous aurons le point de vue du docteur Victoire Aguet, qui est médecin nutritionniste, directrice de l'Institut Régional de Santé Publique de Ouida. C'est au Bénin. Quand on voit les chiffres de l'OMS, de l'Office mondial pour la santé, 2,8 millions de personnes qui meurent chaque année du fait de leur surpoids ou de leur obésité. C'est beaucoup plus maintenant que les problèmes de malnutrition. Est-ce qu'on peut parler d'une épidémie mondiale, docteur Odile Verrier-Mine?
Oui, en effet, parce que des pays qui étaient considérés comme des pays en voie de développement, des pays émergents, présentent un taux très élevé d'obésité quand on pense à l'Inde, quand on pense à la Chine, quand on pense au Brésil, et bientôt aussi en Afrique pour les pays les plus aisés, comme l'Afrique du Sud.
Donc là, ça touche essentiellement plutôt les couches moyennes de la société qui, effectivement, en s'enrichissant, commence à manger un peu à l'occidental, ce qui entraîne de graves perturbations.
Voilà, il n'y a pas que manger à l'occidental, il y a aussi ne pas bouger, être trop sédentaire à l'occidental.
Ça aussi, ça fait partie du mal-être des nouveaux riches, entre parenthèses. Alors, on parle d'épidémie mondiale, il faut quand même dire que ça ne s'attrape pas, l'obésité.
Non, mais dans les familles où on a appris à manger gras et à pas bouger, on n'aura plus tendance à être obèse.
Pourtant, est-ce que c'est vraiment une maladie sans juger? Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une maladie, docteur?
Ah oui, tout à fait. On a une mortalité prématurée d'origine cardiovasculaire chez les personnes obèses qui est indéniable, qui est parfaitement prouvée. Les gens vont mourir, vont avoir d'abord des pathologies coronariennes ou peuvent avoir un type d'infarctus, ou peuvent faire des accidents vasculaires cérébraux ou vont globalement avoir un vieillissement prématuré qui fait que leur espérance de vie sera diminuée.
C'est vrai que des fois, on l'associe pas forcément à une maladie, enfin, sans juger, parce qu'on pense souvent que c'est de leur faute, qu'ils ont qu'à moins manger, faire du sport, et que c'est guéri, en fait.
Ah, c'est plus compliqué que ça. Moins que faire du sport, d'ailleurs, ce qu'il faut, c'est reprendre un bon niveau d'activité physique, arriver à réintroduire chaque jour un peu de marche, arriver à réintroduire chaque jour l'utilisation des escaliers, être moins sédentaire, passer moins de temps devant les écrans. Et ce qu'il faut aussi, c'est reprendre non pas un régime, mais une alimentation équilibrée qui apporte chaque jour un peu de féculents, qui apporte un peu moins de graisse et aussi un peu moins de sucre.
Alors les études mettent à jour le fait que cette maladie concerne surtout les milieux défavorisés. Alors vous êtes dans le nord de la France, qu'est-ce que vous observez ?
Alors on observe une augmentation de la prévalence dans toutes les classes sociales, mais plus spécialement dans les villes où il y a plus de personnes en situation de précarité, et malheureusement nous en avons beaucoup dans la région Nord-Pas-de-Calais. C'est pour ça que le programme d'ailleurs VIF est né dans notre région.
Donc on peut dire en résumant que plus on est pauvre, plus on est gros. On peut le dire comme ça ?
Alors on a tendance à avoir des comportements qui vont favoriser l'émergence de l'obésité. Parce qu'il y a une survalorisation des aliments gras, et qui sont d'ailleurs moins onéreux, et une survalorisation de la sédentarité. Se reposer, ne pas faire de vélo, prendre la voiture, c'est considéré comme étant de meilleure qualité.
Alors vous allez nous expliquer pourquoi effectivement on développe des problèmes de surpoids quand on vit dans la précarité. Mais tout de suite, on va écouter le témoignage de Sandrine qui a 34 ans. Elle est hôtesse d'accueil à Paris. C'est l'aînée d'une famille de 5 enfants et elle a commencé à grossir au début de l'adolescence. C'était vers 11-12 ans. Elle est alors devenue obèse et c'est une obésité qu'elle attribue entre autres aux conditions précaires dans lesquelles elle vit. C'est un témoignage recueilli par Philippine Lebret.
Pour ce qui est de la précarité, c'était surtout depuis, on va dire, 2015, étant donné que je n'avais plus d'allocation chômage, donc c'était assez délicat. Et du coup, pendant presque 2 ans, chaque achat, chaque déplacement, c'était quémander auprès de quelqu'un. Est-ce que tu peux m'aider pour payer le Navigo ? Est-ce que tu peux m'aider pour faire des petites courses ? J'ai plus de shampoing, est-ce que tu peux m'aider ? Là, récemment, j'ai recommencé à travailler, mais pareil, pendant 2 mois, avant que je puisse toucher à mon argent, c'est mon père qui systématiquement m'achetait à manger parce que moi j'avais pas les moyens.
Parce que vous étiez au chômage depuis combien de temps ?
J'étais au chômage depuis fin 2014.
Et depuis quand est-ce que vous avez recommencé à travailler ?
C'était début juillet 2017. Je gagne 800 euros par mois pour 25 heures de travail par semaine.
Et dans votre enfance ?
Alors, dans mon enfance, en fait, il y avait beaucoup de restrictions, puisque ma famille, en fait, techniquement parlant, elle a toujours été pauvre. Par exemple, je me rappelle d'un Noël où ma mère avait emballé une bouteille de soda avec une orange, et j'étais super contente parce qu'il y avait quand même l'esprit de fête, même si c'était aussi modeste que ça.
Et alors, quel lien vous faites entre le fait de venir d'une famille pauvre, d'avoir été vous-même dans une situation de précarité, et votre obésité ?
Bon, déjà de base, même si on mangeait pas forcément toujours n'importe comment, dans ma famille, on n'était pas habitué à tout ce qui est les aliments santé, les salades, les légumes systématiquement, etc. Parce qu'il y en avait parfois, mais il y avait beaucoup de sauces. Il y avait parfois un peu de gras, des choses de ce genre-là.
Et ça, vous pensez que c'est lié à la précarité ?
Quand on n'a pas le choix et quand on doit nourrir sa famille, on va choisir la solution la plus économique et ça va pas forcément toujours être les légumes. Même si on a eu toujours la chance de vivre dans des logements où on avait un espace de stockage, ce qui fait que du coup, l'impact de cette précarité-là a été moins grave que celle que j'ai vécue de mon côté toute seule. C'est-à-dire que là, je vis dans un appartement qui est tout petit, ce qui fait que quand on a un frigo qui est tout riquiqui, on va mettre quoi ? On va mettre un peu de viande, on va mettre des choses comme ça. On n'a pas forcément la place ni le loisir de mettre des légumes ou des choses du genre. Et du coup, forcément, je mange encore moins bien maintenant que ce que je pouvais manger à l'époque quand j'étais chez ma mère. Dans ma situation actuelle, les légumes, j'oublie. Le frais, j'oublie aussi complètement. La plupart du temps, je vais acheter des pâtes, je vais acheter un peu de crème, un peu de lardon, ce genre de choses-là. Mais je vais pas forcément faire plus élaboré. Un paquet de pâtes de 500 grammes, ça me fait 2 repas pour 2 personnes et ça me coûte 90 centimes. Et donc forcément, comme le paquet de lardons, ça me fait 1 euro et que la crème, je crois que c'est dans ces alentours-là, bah ça peut me faire 2-3 repas pour 2 personnes pour pas cher. Donc forcément, je vais privilégier ça. J'ai perdu du poids, pas directement quand j'ai commencé à travailler, mais pour vous donner une idée, fin 2016, j'étais à 128 kilos. Aujourd'hui, j'en suis au 116. Reprendre un travail, ça a été un gros changement sur ma mobilité et tout ce qui va avec. Étant donné que j'étais assez léthargique pendant très longtemps, et vu qu'il y avait le côté dépressif, ça n'aidait pas. Là, aujourd'hui, j'ai cette énergie parce que on m'a fait confiance pour travailler. On m'a aussi fait confiance parce que c'est un métier d'hôtesse d'accueil et que ça, j'étais persuadée que je n'y arriverais jamais à cause justement de ma morphologie.
Et on vous a déjà dit que c'était un métier pas fait pour vous ?
Oui, on m'a dit que c'était pas un métier pour moi du tout. C'est-à-dire qu'à une époque, par exemple, j'étais sur des salons pour l'emploi, pour des agences d'hôtesse exactement comme celle pour laquelle je travaille aujourd'hui. Et on me disait, ah ben madame, on fait pas l'uniforme au-delà de la taille 42. Là, ce métier que j'exerce aujourd'hui, c'est une libération aussi à cet égard. Je suis partie là pour, on va dire, perdre naturellement, parce que, par exemple, au lieu de sortir à une station de métro qui est à 2 minutes du boulot, je prends celle qui est à 15 minutes. Comme ça, je sais que je vais marcher un petit peu. Je vais prendre des cours de danse gratuits, et je suis persuadée que d'ici quelques mois, je serai en dessous des... Allez, on va dire en dessous des 100.
Priorité santé sur RFI.
Alors, vous avez écouté le témoignage de Sandrine, hein, docteur Odile Verrier-Mine. On comprend bien un peu l'engrenage, hein, effectivement, quand on est ou au chômage ou en situation de précarité. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve à manger des pâtes tous les jours et de ne pas suffisamment manger de légumes?
Alors, ça dépend de ce que vous avez appris avec votre maman sur le plan culinaire. Soit vous avez l'habitude de cuisiner des légumes et vous saurez trouver les légumes surgelés ou alors dans les paniers solidaires moins cher, vous saurez les choisir dans les épiceries solidaires et vous ne serez pas effaré à l'idée de les cuisiner et les préparer. Soit vous n'avez pas appris, et c'est sans doute parce qu'elle n'a pas appris, parce qu'on peut montrer que c'est pas plus cher de manger équilibré.
Ça, effectivement, ça s'apprend, alors si on ne l'a pas appris dans le cadre de sa famille.
Voilà, et donc, dont Vif fait la promotion.
Alors il y a aussi tout le rapport à l'image, hein, de ce qu'on nous dit pas. C'est une maladie, c'est vrai, incomprise, hein, l'obésité. C'est une prison aussi dans une société obsédée par l'image, surtout pour Sandrine qui voulait être hôtesse d'accueil.
Oui, mais on peut s'engager comme elle le fait et on peut tout à fait la féliciter pour perdre du poids. Ça reste toujours possible. Ça n'est pas une fatalité. C'est pas parce qu'on est dans un milieu difficile au point de vue financier qu'on ne peut pas y arriver. On peut aussi perdre du poids. Et d'autre part, on peut aussi après apprendre à s'accepter tel qu'on est, apprendre à mieux vivre avec le corps qu'on a et par des techniques de relaxation, de sophrologie et retrouver le plaisir de bien habiter son corps.
Oui, c'est ça, d'être à l'aise dans son corps. Alors, on va tout de suite prendre Hassan qui nous appelle de Kinshasa, donc en RDC. Bonjour Hassan.
Bonjour madame.
On écoute votre témoignage.
Voilà, je pèse 110 kilos, je mesure 185 centimètres. Il y a un mois, je me suis imposé un régime alimentaire en réduisant non seulement le nombre de repas et le nombre de portions, je suis passé de 3 repas à 2 repas et le nombre de portions, j'ai réduit de 2 portions à 1. Alors, mais j'ai constaté que mon poids ne diminue pas. Alors, je me suis dit, peut-être c'est génétique, puisque mes parents sont aussi robustes. Alors, je voudrais vous demander qu'est-ce que je peux faire pour réduire le poids jusqu'à 80 kilos.
Ça fait combien de temps que vous avez engagé, effectivement, vos changements alimentaires?
Un mois et demi.
Ça fait un mois et demi. Et vous constatez aucune perte de poids?
Effectivement.
Alors, on va écouter le docteur Odile Verrier-Mine.
Alors, il faudrait d'abord savoir comment cette personne a pris du poids, parce que pour perdre du poids, il faut arriver à modifier son mode de vie et éliminer les habitudes qu'on fait, qu'on a constitué ce surpoids. La première chose à faire, c'est de reprendre une activité physique modeste, mais qui est présente tous les jours sous forme de ce qui est simple pour vous. Donc, si c'est la marche, eh bien, vous marchez. Si vous marchez déjà une demi-heure, eh bien, vous marchez 45 minutes. Et si vous marchez à 45 5 minutes, vous augmentez. La deuxième chose à faire, c'est de continuer à prendre vos repas, vos 3 repas, et d'introduire dans chaque repas des féculents qui vont vous permettre de ne pas avoir faim, mais des féculents avec une quantité raisonnable de matière grasse, en ajoutant aussi des fruits et des légumes, de façon à ce que votre assiette fasse la moitié en féculents, un quart en fruits, en légumes, et puis l'autre partie avec des protéines d'origine animale ou végétale, mais qui soient pas trop grasses. Et puis il faut aussi étudier la façon dont vous mangez. Il faut manger au moins en mettant une demi-heure par repas. Si vous mangez trop vite, vous aurez englouti beaucoup trop de calories et vous en aurez sans doute englouti trop pour ce que vous dépensez.
Est-ce voilà, que Hassan, qu'est-ce que vous pensez de ce conseil de bon sens?
Oui, c'est bon, mais bon, il y a aussi un problème. Je pense, je voulais juste poser la question, est-ce que l'obésité n'est pas le surpoids en fait? Est-ce que ce n'est pas aussi génétique? Parce que là, j'ai constaté, mes deux parents sont sans robustes. Alors, je suis le seul parmi les 5 qui a une masse.
Voilà, alors c'est rare que l'obésité soit génétique, et c'est, je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais c'est exceptionnel. Et dans l'immense majorité des cas, l'obésité est liée à une trop grande sédentarité ou à un apport trop rapide en aliments ou à un apport trop important. Donc là, on va prendre l'hypothèse que vous mangez vite, parce que c'est la première chose à reprendre, et je pense que ça devrait être efficace.
Effectivement.
Et en termes de déplacement, de marche, elle donnait le premier conseil, effectivement, de marcher un peu plus. Où est-ce que vous en êtes, vous, de ce côté-là, Hassan?
Alors là, chaque jour, chaque matin, je fais quelques sports. Je fais 50 séries de cuisses et 50 séries au niveau de l'abdomen. Voilà.
Bon, ça c'est très bien parce que vous allez augmenter votre masse musculaire, ce qui fait que peut-être sur le poids, sur la balance, ne va pas se modifier. Si vous voulez voir le retour de votre investissement en termes d'activité physique, dans ces cas-là, il faut mesurer votre tour de taille. Parce que si vous prenez de la masse musculaire, le muscle, ça pèse lourd, votre poids sur la balance ne changera pas aussi vite que ce que vous vous attendriez. Par contre, vous allez perdre de la graisse abdominale. Et d'autre part, ce que je voulais vous dire, c'est que la marche, ça, c'est une activité aérobie qui est apparemment complémentaire de ce que vous faites, qui est statique.
D'accord. Ok, j'ai compris. Merci.
Bon courage à vous.
Merci beaucoup, Hassan, pour votre témoignage et pour vos questions au docteur Odile Verriemine. C'est vrai, on le dit. Alors là, il a entrepris déjà un vrai changement hein, dans sa manière de faire. Il y a des questions aussi qui arrivent sur Facebook. À partir de quand on peut dire qu'on est obèse ou en surpoids? Comment on fait pour calculer ça?
Alors, il faut une petite calculette parce qu'on doit faire le rapport entre le poids et la taille au carré. Et ça vous donne un chiffre qui vous permet de dire que votre poids est normal. Si vous trouvez un chiffre entre 18,5 et 24, là c'est bon. En dessous de 18,5, vous êtes en état de maigreur. Et à partir de 25 jusqu'à 30, vous êtes en surpoids. Donc là, c'est pas aussi grave que l'obésité, mais disons que c'est un sas d'entrée. Et au-delà de 30, eh bien vous êtes sur plan médical qualifié d'obèse.
Donc c'est l'indice de masse corporelle, hein, c'est ça?
Voilà,
donc,
tout, à calcul. Ouais. Tout à fait.
Donc il faut le calculer et on note quand même en tout cas que le nombre de cas d'obésité a doublé. J'ai vu ça dans le monde depuis 1980. Donc on va continuer de voir avec vous maintenant qu'on a repéré cette obésité. Comment on fait pour s'en sortir et qu'est-ce qui marche aussi en termes de prévention? On vous retrouve dans 3 minutes avec vos questions à les auditeurs au 33 1 84 22 75 75 et toujours le docteur Odile Verriemine qui est endocrinologue diabétologue au centre hospitalier de Valenciennes dans le Nord, donc en duplex depuis France Bleu Nord. Et vous allez témoigner de toutes vos actions au sein de l'association Fédérons les villes pour la santé, avec ce programme Vivons en forme, le VIF, pour nous donner donc toutes ces pistes pour arriver à agir sur les problèmes de surpoids dans les populations qui vivent en milieu défavorisé, dans les populations précaires. Restez avec nous, on se retrouve dans 3 minutes après le flash.
Priorité santé, Sandrine Mercier.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans Priorité Santé. À l'échelle mondiale, le nombre de cas d'obésité a doublé depuis 1980, ce qui nous fait quand même presque 40% des adultes âgés de 20 ans en surpoids. Et vous dire aussi que maintenant, on meurt plus du surpoids dans le monde que de malnutrition. Alors, est-ce que l'obésité est inévitable ou est évitable? Au contraire, comment faire pour inverser la tendance? Et quelles mesures mettre en place pour lutter contre l'obésité, surtout dans les milieux défavorisés, puisqu'on a vu que c'était eux les premiers touchés par cette maladie? On attend vos questions, amis auditeurs, au 33 1 84 22 75 75. C'est le docteur Odile Verriemine qui est là pour répondre à vos questions. Odile Verriemine est donc endocrinologue, diabétologue au centre hospitalier de Valenciennes, dans le Nord, en duplex, en direct depuis France Bleu Nord, donc à Lille. Je rappelle que vous êtes trésorière de l'association Fédérons les villes pour la santé, avec ce programme que vous allez nous détailler pour donner des bonnes pistes pour essayer de réduire, d'agir, en tout cas faire de la prévention sur les problèmes de surpoids dans les familles défavorisées. Ce programme s'appelle Vivons en forme, le VIF. Alors, qu'est-ce qui vous paraît, je dirais, docteur, qu'est-ce qui vous paraît vraiment fondamental pour comprendre cette maladie, pour comprendre l'obésité?
On prend du poids parce que on perturbe l'équilibre entre ce qu'on mange et ce qu'on dépense en bougeant. Alors, si on veut perdre du poids, il faut remonter et démonter ces mécanismes. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Alors, tout d'abord, il faut comprendre comment on mange. Si on se met à manger trop vite, ou qu'on a des rations trop importantes, ou alors qu'on se met à manger en fonction de nos émotions, dès qu'on est stressé, on va grignoter du chocolat. Dans ces cas-là, les apports caloriques vont être excessifs, ça va être stocké dans le tissu adipeux. Et ce tissu adipeux en excès, eh bien, il n'est pas inerte, il va sécréter des agents qui vont favoriser la pathologie cardiovasculaire. L'obésité peut aussi se constituer si jamais on est trop sédentaire. Dans ces cas-là, si on ne dépense pas l'énergie qu'on a avalé et qu'on a stocké.
Parce qu'on se demande effectivement un peu la faute à qui avec cette sorte d'épidémie mondiale, vous le dites, en termes de surpoids partout sur la planète. Donc la faute à qui? Il n'y a pas que l'alimentation trop sucrée, il y a aussi ce rapport à la télé, on reste trop longtemps sans bouger, devant les écrans, donc on a perdu le bon sens, je dirais, effectivement, de mettre en mouvement notre corps.
Voilà, autrefois les enfants allaient en classe à pied ou en vélo. Mmh. Actuellement, on les dépose en voiture juste devant la porte. Mmh. Déjà remettre tous les écoliers de France et de Navarre et les collégiens, les étudiants, les lycéens, les étudiants à une mobilité active, aller à pied en classe, aller en vélo en classe, aller pourquoi pas en trottinette, en skateboard, ce serait un très grand progrès. Mmh. On sait que nos adolescents ont des performances cardiovasculaires qui sont diminuées par rapport à celles des adolescents il y a 25 ans.
Hein. Tout ça parce qu'ils bougent moins.
Voilà. Oui. Et dans les pays du monde où on a réussi, comme par exemple au Canada ou en Angleterre, quand on a réussi à modifier la marchabilité des villes, c'est-à-dire l'utilisation des trottoirs, avoir des trottoirs et des pistes cyclables, on sait que les enfants sont moins obèses et sont en meilleure santé. Donc il y a, à côté de l'alimentation, il y a la diminution de la sédentarité, moins de temps passé devant les écrans et plus de temps à jouer au foot ou à marcher ou à faire du vélo.
Oui, parce qu'en moyenne, c'est 4 heures devant les écrans quand même pour les enfants,
voilà,
aujourd'hui.
Et on sait que la proportion d'obèses, c'est d'abord le temps passé devant les écrans. Avant la paupérisation, c'est d'abord le temps passé devant les écrans.
Ah oui, une corrélation directe.
Tout à fait, oui.
Alors, on va tout de suite prendre Alassane, qui veut témoigner aussi, qui nous appelle de Pointe-Noire, au Congo-Brazza. Bonjour Alassane.
Oui, bonjour Sandrine.
Alors, vous êtes jeune aussi, vous avez 33 ans.
Oui, je suis 33 ans, je mesure 1m75 et je pèse 95 kg. Donc, bon, je me sens pas obèse, mais pour les autres, je suis obèse. Bon, la famille, bon, la maman est obèse. J'ai un frère aussi obèse, mais le papa est mince. Mm-hmm. Je voulais savoir si l'obésité, c'est héréditaire et de quels parents?
Non, l'obésité est très rarement héréditaire. Par contre, ce qui peut être héréditaire, ce qu'on acquiert en fait, ce qu'on pense être héréditaire, mais ce qu'on acquiert dans la famille, c'est la façon de manger et la façon de bouger. Si votre papa a une profession qui l'expose à marcher beaucoup, à être extrêmement actif au travail, comme ça l'est souvent, eh bien, il va dépenser plus de calories. On n'a pas toujours conscience du temps qu'on passe à être actif ou du temps qu'on passe à être sédentaire. Il faut vraiment s'observer pour se rendre compte.
Et là, par exemple, la maman de Alassane, effectivement, elle est obèse, ainsi que son frère. Est-ce que les femmes sont aussi plus touchées? Parce que, effectivement, peut-être moins de travail à l'extérieur, plus à la maison.
Écoutez, on pourrait penser ça, mais en fait, ce sont les hommes qui sont plus facilement en surpoids. Surpoids, c'est entre 20, l'IMC entre 25 et 30. Oui. Et les hommes et les femmes sont à peu près autant obèses une fois qu'au-delà de 30.
D'accord. Donc, ça touche plus souvent quand même les hommes.
Le surpoids, mais pas l'obésité. Hein, le surpoids, c'est entre 25 et 30.
D'accord.
Donc, globalement, c'est quand même à peu près bien la même chose dans les deux sexes.
Donc, la question d'Alassane, à savoir si ça viendrait plutôt de son père ou de sa mère, ça n'a pas lieu d'être.
Non, en fait, il faut qu'il réfléchisse à son mode de vie et qu'il voit comment mange-t-il et combien bouge-t-il. Alors, si jamais il a un téléphone portable, il y a souvent des applications dans les smartphones, des applications qui permettent de calculer le nombre de pas faits par jour, et ça peut donner déjà une bonne idée de l'activité physique. On considère qu'on est actif au-delà de 10 000 pas par jour.
Ah oui, quand même. Voilà. 10 000 pas, ça fait combien de kilomètres?
Environ 8, ça dépend de la longueur du pas, mais oui. En général, 7 à 8 kilomètres selon les personnes.
Donc, il faudrait faire, pour se tenir en forme naturellement et dépenser ses calories, environ 7-8 kilomètres par jour. Ce serait bien pour le corps humain.
Oui, mais on les fait assez vite. Hein, quand on saute une station de métro, comme le faisait la personne qui témoignait en début d'émission, on passe vite du temps, enfin, on accumule vite la distance dans la journée.
Alassane, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une recherche de perte de poids ou pas du tout?
Oui, mais j'avais une voiture, après j'ai vendu la voiture, donc maintenant je marche à pied.
Excellent, bravo. Excellente idée. Okay. Merci beaucoup Alassane pour votre témoignage. Alors effectivement, vous recommandiez de marcher. On a perdu cette habitude avec le développement des voitures. Bon, là, Alassane, il commence à prendre de bons réflexes. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Parce que vous avez travaillé, vous justement, pour lutter contre l'obésité, un gros fléau de nos sociétés. Donc, il y a des études qui ont montré que le surpoids, d'abord, touche plus les enfants d'ouvriers et d'agriculteurs. Donc ça, c'est comment vous avez observé ce phénomène, docteur?
Eh ben, c'est à partir des cohortes épidémiologiques OBEPI et Constance qu'on a eu des chiffres qui étaient représentatifs de la France sur des échantillons qui étaient entre 20 000 et 300 000 personnes selon les études. Et on savait quelle était la profession des personnes, et on a pu comme ça analyser la cohorte. Et ces données sont extraites de ces études-là.
D'accord. Et alors, le lien, effectivement, entre ouvriers, agriculteurs, parce qu'en agriculteur, on peut penser qu'on est près de la nature, qu'on a des choses à manger, des bons légumes. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un lien?
Il y a plus un lien avec le niveau de revenu, en fait, qu'avec la profession. Bien sûr, il y a un lien avec la profession, mais c'est surtout le niveau de revenu qui compte. Et les agriculteurs, c'était plus sans doute les ouvriers agricoles, quand on met agriculteur.
Et est-ce que vous trouvez que c'est pris en compte au niveau de la santé publique aujourd'hui?
Alors, ça l'a été beaucoup jusqu'à ce qu'il y a quelques années, et on espère qu'on va repartir dans des mesures plus ambitieuses de prévention de l'obésité, puisque c'était ce que nous avait annoncé notre nouvelle ministre. Donc, nous sommes en attente.
Et on peut dire aujourd'hui que l'obésité tue carrément, que c'était une maladie qui tue, puisque je vois que ça provoque quand même le décès de 2,8 millions de personnes chaque année dans le monde.
Tout à fait. D'ailleurs, ce sont les assureurs américains qui se sont rendus compte que certaines personnes mouraient plus vite. C'était très important pour la rentabilité de leurs entreprises. Et ce sont eux qui ont mis en évidence les facteurs de risque cardiovasculaire, en fait.
Donc, il y a vraiment un coût pour la société.
Ah, mais tout à fait. Il y a une mortalité prématurée. Et là, il y a un travail qui vient de sortir en Grande-Bretagne, aux États-Unis, pardon, qui montre que si les enfants américains entre 6 et 11 ans, 3 fois par semaine, étaient actifs pendant une demi-heure, on aurait des coûts très importants d'économie. On pourrait faire des économies qu'on pourrait réinvestir d'ailleurs dans la prévention de l'obésité.
Alors on va tout de suite écouter Sadou qui nous appelle de Kankan en Guinée-Conakry, qui est jeune aussi. Bonjour Sadou, vous avez 29 ans, on vous écoute.
Oui, bonjour Sandrine, bonjour docteur. Au fait, moi j'ai 29 ans, j'ai environ 72 kilos. Je mesure 1m60. Je voudrais savoir, vu mon âge et le poids que j'ai, est-ce que je peux penser directement à l'obésité? J'ai quelques douleurs. Des fois, je ressens des douleurs au dos et aux reins. Est-ce que le poids peut être à l'origine de cela? C'est ça, mes inquiétudes.
Merci, Kankan, pour votre question. On vous écoute, docteur.
Alors, pour calculer votre indice de masse corporelle, il faut que vous divisiez votre poids par votre taille au carré. Et si vous êtes au-delà de 30, vous êtes dans la catégorie obèse. Quoi qu'il en soit, ce qui est important pour vous, c'est de reprendre un mode de vie équilibré qui vous permette d'habiter votre corps en étant en forme. Il s'agit pas de commencer à vous imposer des règles trop difficiles, parce que sinon vous allez vous contraindre, et plus on se contraint, et plus après ça l'organisme se venge, et vous risqueriez d'avoir très envie de manger les éléments que vous vous êtes interdits. Donc
il faut y aller mollo, progressivement.
Il faut y aller en ayant le souci de pas faire violence à son corps. Donc reprendre une activité physique douce, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, et puis réfléchir, s'asseoir et réfléchir à son alimentation. On peut par exemple faire un journal alimentaire pour noter tout ce qu'on mange en quantité, en plat et en rythme, et ça va vous permettre d'analyser, de faire le point et vérifier si vous ne mangez pas trop vite, si vos assiettes ne sont pas trop garnies. Ceci dit, en mangeant plus lentement, si vous avez la moitié de votre assiette qui est garnie de féculents, normalement, à la fin du repas, vous ne devez plus avoir faim.
Parce que et le problème, quand on mange trop vite, effectivement, on n'a plus le sentiment de satiété. On enfourne, sans sentir vraiment si...
Voilà. Ouais. Voilà. Et il y a tout un travail autour de ça. C'est très important de ne pas se restreindre. C'est très important de ne pas avoir faim dans la journée. Parce que plus on a faim, plus on va distordre son seuil de la satiété et plus on aura envie de se jeter sur des aliments. Et alors là, on risque de remanger très vite et beaucoup plus que ce qu'on avait prévu, d'où un sentiment de culpabilité, et puis on rentre dans ce cercle vicieux de ce qu'on appelle, nous, la restriction cognitive, qui est très délétère. Donc il faut vraiment faire ça dans la douceur, dans la bienveillance. Alors ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a souvent des personnes qui mangent avec leurs émotions. Ce qui fait que quand elles sont contrariées, stressées, elles peuvent grignoter. Hein, c'est le syndrome du placard ou du carré de chocolat, comme on le disait tout à l'heure.
Bah, c'est une manière de se faire un peu de bien quand on est face à des situations dramatiques, quoi.
C'est une manière de se consoler.
Ouais.
Donc ça, il faut être consciente du fait si ça survient ou non, prendre conscience de savoir si ça arrive ou non, et comprendre ce qui amène à ça. Quand on ressent cette contrariété, ce stress, se dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que je ressens? Et est-ce que c'est vraiment la meilleure solution? Et ce simple fait de prendre un peu de recul, ça va permettre de petit à petit introduire un déconditionnement et d'apporter progressivement d'autres solutions plus adaptées.
Merci beaucoup, Sadou, pour votre témoignage, et j'espère que le docteur Odile Verrier-Mine vous a donné quelques pistes pour l'avenir. Alors, on va tout de suite prendre le docteur Victoire Aguet, puisque la ligne est enfin bonne. Savez-vous que la moitié des enfants obèses sont dans les pays du Sud? Alors, comment ça se passe au Bénin? C'est ce qu'on va voir tout de suite.
Priorité santé sur RFI.
Bonjour docteur Victoire Aguet.
Bonjour.
Alors on est contente de vous avoir en direct. Vous êtes médecin nutritionniste, directrice de l'Institut Régional de Santé Publique de Ouida au Bénin. Alors est-ce que vous remarquez que l'obésité, surtout chez les enfants, explose au Bénin?
Oui, l'obésité explose au Bénin. Et déjà, après bas âge, chez les enfants de moins de 5 ans, nous avons observé une prévalence qui varie de 3 à 5%. Et cette prévalence persiste jusqu'à l'âge scolaire. Quand les enfants sont âgés de 6 à 10 ans, la prévalence est autour de 5%. Et cette prévalence augmente chez les adolescents. Une étude que nous avons menée dans les écoles secondaires en 2009 a révélé une prévalence de 10,5% variant de 8% chez les garçons et de 13,6% chez les filles. Maintenant, chez les femmes en âge de progrès, cette prévalence a évolué de 9% en 1996 à 27% en 2011. Et une étude que nous avons eu à mener sur le plan national en 2008 nous a fait observer une prévalence générale du surpoids d'obésité chez les individus âgés de 25 à 64 ans. Une prévalence de 29,8%, dont...
Oui, donc vous avez des chiffres effectivement très très précis. Là, on voit effectivement à quel point ça c'est en augmentation. Comment faut-il comprendre, à votre avis, l'obésité au Bénin?
Deux choses expliquent cette prévalence élevée de l'obésité. Le changement dans l'alimentation et le changement dans le mode de vie. Dans l'alimentation, de plus en plus, les gens consomment des aliments riches en sucre, pauvres en fibres, avec une consommation très basse de fruits et de légumes. Cette prévalence est également liée à des changements au niveau du niveau d'activité physique qui diminue, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Donc, deux choses qui expliquent cette prévalence de plus en plus croissante de l'obésité. Le phénomène de la transition nutritionnelle qui se caractérise des changements dans l'habitude alimentaire et la réduction du niveau d'activité physique.
Mmh. Oui, donc c'est un problème de santé publique, hein, comme on le voit aussi en France, donc c'est au Bénin aussi. Alors quel est le message que vous voulez faire passer?
Ah, le message, c'est que de plus en plus, il faut que les personnes prennent conscience que l'obésité est un problème de santé. Parce que l'obésité n'est pas perçue comme un problème de santé, malheureusement. Et même des gens vraiment obèses ne viennent pas consulter pour l'obésité, ils viennent consulter pour les malaises qu'ils ressentent. Mmh.
Merci beaucoup, docteur Victoire Aguet, médecin nutritionniste, directrice de l'Institut régional de santé publique de Ouida, au Bénin. Alors, on va à une dernière question pour vous, docteur Odile Verrier-Mine, avant d'avoir la chronique nutrition de Stéphane Besançon. Vous avez mis en place des actions qui marchent auprès des populations défavorisées. Alors, dites-moi, comment elles arrivent à adopter de nouvelles habitudes de vie?
Alors, le programme VIF, en fait, met à disposition des villes, puisqu'on agit au niveau des villes, des programmes de formation, des plans d'action, et puis des outils qui ont été évalués et validés. Alors, ces outils vont pouvoir accompagner les familles et leur permettre de changer en profondeur et de façon durable les modes de vie.
Donc, l'idée, c'est de bien mettre à contribution les parents.
Les parents, mais aussi tous les acteurs locaux. Alors, bien sûr, le corps médical, mais les cadres des mairies, les agents des collectivités, les agents de la restauration scolaire, les animateurs périscolaires, les enseignants. Et les outils qui sont mis à disposition vont aborder différentes thématiques. Par exemple, les rythmes des repas. Est-ce qu'il faut vraiment faire une petite collation le matin à 10h? Mieux vaut faire plutôt un petit déjeuner, peut-être. Comment manger des fruits? Comment manger des légumes? Apprendre à les cuisiner, à les aimer? Comment boire? Que faut-il boire? Comment bien dormir? Un travail aussi sur les portions. Par exemple, on ne doit pas plus manger des quantités de protéines pour les enfants que la taille de la paume de la main.
Et tout ça avec quel budget aussi? Parce que là, on est sur des populations en milieu défavorisé, donc c'est important.
Alors, ces études sont mises en place par VIF et sont ensuite vendues. Enfin, il y a une adhésion au programme VIF. Et à partir du moment où il y a une adhésion au programme VIF, les projets sont mis à disposition. Donc en général pour la ville ça reste un budget tout à fait raisonnable et ces projets conçus de façon centralisée sont ensuite décentralisés. Sont ensuite proposés dans les villes qui se les approprient, qui s'approprient les outils, qui s'approprient les formations et qui s'approprient les programmes aussi parce que finalement ils prennent ce qu'ils souhaitent.
Alors combien de villes aujourd'hui effectivement mettre en place ce programme VIF donc?
Alors actuellement on est à 250 villes et on est parti de deux villes, hein, il y a une dizaine d'années. Et là, j'ai surtout évoqué ce qui était au point de vue alimentation, mais il y a aussi des ateliers au point de vue activité physique. Et le programme qui nous a rejoint, c'est le programme Bouge avec les actifs, qui est bien connu, qui commence à être bien connu des enfants. Des petits dessins animés, des petites brochures qui les apprennent à bouger. Et enfin, on a aussi un programme avec des ateliers de relaxation pour que les enfants puissent apprendre à gérer leurs émotions et à percevoir de façon différente leur corps.
Oui, vous avez bien fait le lien entre les émotions et le fait de se ruer sur son frigo. Pour terminer, quels sont les progrès du coup que vous avez notés grâce à ce programme ?
Alors, ces progrès ont été notés, quels que soient les milieux sociaux, parce qu'on ne souhaite pas particulièrement stigmatiser les classes pauvres. Et les programmes sont proposés à toute la ville. Alors, au bout de 3 à 6 ans, on voit une diminution de la prévalence de l'obésité qui varie selon les villes entre moins 13% et moins 50, quasiment 50% dans d'autres villes.
Oui, donc une c'est vraie efficacité du programme. Bravo.
Voilà. Et il y a très peu de programmes dans le monde entier d'ailleurs qui sont aussi efficaces que ce programme-là.
Alors, on va terminer tout de suite avec la chronique nutrition de Stéphane Besançon. Ça tombe pile poil avec le sujet du jour, donc sur l'obésité. Bonjour Stéphane. Vous êtes bien là avec nous en direct depuis Bamako, donc vous êtes aussi le directeur de l'ONG Santé Diabète au Mali. Bonjour.
Bonjour Sandrine.
Alors cette semaine, vous allez poursuivre votre chronique sur les œufs de poule en nous expliquant pourquoi c'est un aliment souvent controversé, dont la valeur est sous-estimée.
Alors il faut tout d'abord rappeler Sandrine que la controverse autour de la consommation d'œufs de poule est liée à sa forte teneur en cholestérol et le risque qu'il peut y avoir entre une alimentation riche en cholestérol et l'incidence des maladies cardiovasculaires. Ainsi, pendant des années, la majorité des nutritionnistes ont recommandé de limiter la consommation d'œufs dont le jeûne est riche en cholestérol. En général, la recommandation était de consommer un maximum de 2 à 3 œufs avec leur jaune par semaine.
Mais est-ce que ces recommandations sont toujours les mêmes aujourd'hui ?
Alors non, et c'est ça qui a beaucoup changé, les choses ont évolué. De nombreuses sociétés savantes, comme par exemple l'American Heart Association, accepte aujourd'hui une recommandation de consommation pouvant aller jusqu'à un œuf contenant son jaune par jour, à condition bien sûr, et ça c'est très important de bien le comprendre, de limiter la consommation en parallèle des autres aliments riches en cholestérol. Et ce changement d'orientation se base sur un grand nombre d'études internationales, c'est pas quelque chose d'empirique, qui sont concordantes et qui n'ont pas démontré de surrisque cardiovasculaire avec une augmentation de la consommation d'œufs. Si bien sûr, et je le redis une nouvelle fois, en parallèle, le reste de l'alimentation reste équilibré. C'est ça qui est central. Des études ont montré aussi que l'alimentation n'est pas la première source du cholestérol qui est délétère en excès.
Alors, est-ce que l'œuf contient des composants intéressants pour notre santé, Stéphane ?
Alors oui, tout à fait. C'est ceci qui a été aussi minimisé pendant des années. On a focalisé vraiment l'attention sur la question du cholestérol en laissant un peu le reste autour. Et je vais essayer de vous présenter, pour moi, 3 nutriments qui semble faire de l'œuf un aliment très intéressant. La toute première qui est connue de tous les nutritionnistes, c'est les protéines. Hein, l'œuf est riche en protéines et des protéines de très bonne qualité. En effet, ce sont des protéines que l'on dit complètes, car elles comportent les 9 acides aminés essentiels qui ne sont pas fabriqués par notre organisme. Et cette protéine de l'œuf est la référence pour définir la qualité des bonnes protéines alimentaires. Ensuite, il y a les vitamines et minéraux qu'on oublie souvent, dont l'œuf est une source non négligeable. Il contient en quantité intéressante des vitamines B2, B12, de la vitamine A, de la vitamine E et de la vitamine E, mais aussi du phosphore et du zinc. Enfin, il y a les caroténoïdes, ce sont des nutriments antioxydants qui vont avoir un effet protecteur sur les maladies de la dégénérescence, mais aussi sur les maladies cardiovasculaires. Le jaune d'œuf en contient 2 en quantité très intéressante, c'est la lutéine et la zéaxanthine. Et c'est ces caroténoïdes qui vont donner cette couleur jaune à l'œuf qui est très caractéristique de l'œuf.
Bon, alors vous nous dites à quel point c'est bon pour la santé, mais en même temps il y a aussi des croyances sur les œufs, non ? Qu'est-ce qu'il en est exactement ?
Alors en général, on retrouve 2 croyances principales. La première, c'est qu'il y aurait une différence de qualité entre l'œuf dont la coquille est de couleur brune et celui dont la coquille est de couleur blanche. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en Afrique comme croyance. Et en fait, il n'y a aucune différence de qualité. Il faut bien que les gens sachent que cette différence de couleur est purement due à l'espèce de la poule qui va pondre l'œuf. Il n'y a rien de différence nutritionnelle entre ces 2 couleurs. Et la deuxième croyance est que sa consommation est risquée dans les pays chauds, car on ne peut savoir s'il est frais ou non sans casser sa coquille. Ceci aussi est totalement faux, car il y a un moyen très simple, un petit truc qui permet de savoir s'il est frais ou non. Il suffit de mettre l'œuf dans un verre d'eau. S'il coule au fond en reposant sur le côté, il est frais. Et s'il flotte, alors il faut mieux faire attention, car il y aura des problèmes de sa consommation, ça veut dire qu'il n'est pas frais. Donc ces croyances souvent sont pas tout à fait justifiés et on peut manger de l'œuf en toute confiance. Et aussi, en ayant une alimentation équilibrée, on peut respecter la santé cardiovasculaire et pas prendre de risques excédentaires sur le cholestérol.
Et merci Stéphane Besançon, puisque vous nous avez donné aussi ce petit truc pour savoir si l'œuf donc est mangeable ou s'il est consommable ou au contraire si on peut le jeter. Merci beaucoup. On retrouve toutes les échanges de cette chronique, en tout cas sur Priorité Santé, sur votre Twitter également, Stéphane Besançon. Merci beaucoup au docteur Odile Verriémine, endocrinologue, diabétologue au centre hospitalier de Valenciennes. Merci d'avoir été avec nous pendant cette heure depuis Valenciennes. Et tout de bon, je dirais, pour continuer avec ce programme vif. Pour faire bouger les gens. Et vous dites aussi à quel point il faudrait qu'il y ait un programme pour que les jeunes puissent avoir à l'école au moins une heure d'activité par jour. Ça vous paraît effectivement vital pour nos jeunes.
Déjà qu'ils aillent dans leur lieu d'établissement scolaire à pied ou en vélo ou en skate.
On commence comme ça, on abandonne la voiture, le bus, on y va à pied en courant, ça permet de garder la forme et d'éviter d'accumuler ses calories. Merci beaucoup docteur Odile Verriémine.
Je vous en prie.
Et bonne journée à tous. Merci à toute l'équipe. Demain, vous retrouverez Claire Hédon sur le problème des maladies sexuellement transmissibles qui sont en train d'exploser chez les jeunes. Elle attend vos messages au 33 1 84 22 75 75 et je vous dis à jeudi, je serai là jeudi. Portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.